Beautrelet n'attendit point de réponse à sa question. On eût dit qu'il se hâtait pour la faire lui-même et coupait court à tout commentaire. Il repartit aussitôt. « Donc, c'est Jean Daval qui conduit les trois cambrioleurs jusqu'à ce salon. Tandis qu'ils s'y trouvent avec celui qu'ils appellent leur chef, un bruit se fait entendre dans le boudoir. Daval ouvre la porte. Reconnaissant Monsieur de Gesvres, il se précipite vers lui, armé du couteau. Monsieur de Gesvres réussit à lui arracher ce couteau, l'en frappe et tombe lui-même, frappé d'un coup de poing par cet individu que les deux jeunes filles devaient apercevoir quelques minutes après. » De nouveau, Monsieur Filleul et l'inspecteur se regardèrent. Ganimard hocha la tête d'un air déconcerté. Le juge reprit.
« Monsieur le comte, dois-je croire que cette version est exacte ?»
Monsieur de Gesvres ne répondit pas.
« Voyons, monsieur le comte, votre silence nous permettrait de supposer... »
Très nettement, monsieur de Gesvres prononça.
« Cette version est exacte en tout point. »
Le juge sursauta.
« Alors je ne comprends pas que vous ayez induit la justice en erreur. Pourquoi dissimuler un acte que vous aviez le droit de commettre, étant en légitime défense ?»«
Depuis 20 ans, Daval travaillait à mes côtés. J'avais confiance en lui. Il m'a rendu des services inestimables. S'il m'a trahi à la suite de je ne sais quelle tentation... Je ne voulais pas, du moins en souvenir du passé, que sa trahison fût connue.
Vous ne vouliez pas, soit, mais vous deviez...
Je ne suis pas de votre avis, monsieur le juge d'instruction. Du moment qu'aucun innocent n'était accusé de ce crime, mon droit absolu était de ne pas accuser celui qui fut à la fois le coupable et la victime. Il est mort. J'estime que la mort est un châtiment suffisant.
« Mais maintenant, monsieur le comte, maintenant que la vérité est connue, vous pouvez parler. »«
Oui. Voici deux brouillons de lettres écrites par lui à ses complices. Je les ai pris dans son portefeuille quelques minutes après sa mort. »«
Et le mobile du vol ?»«
Allez à Dieppe, au 18 de la rue de la Barre. Là demeure une certaine Madame Verdier. » C'est pour cette femme qu'il a connue il y a 2 ans pour subvenir à ses besoins d'argent que Daval a volé.
Ainsi, tout s'éclairait. Le drame sortait de l'ombre et, peu à peu, apparaissait sous son véritable jour.
« Continuons, »
dit Monsieur Filleul après que le comte se fut retiré. « Ma foi, » fit Beautrelet gaiement, « je suis à peu près au bout de mon rouleau. » Mais le fugitif, le blessé, « là-dessus, monsieur le juge d'instruction, vous en savez autant que moi. Vous avez suivi son passage dans l'herbe du cloître. Vous savez ?»«
Oui, je sais. Mais depuis, ils l'ont enlevé. Et ce que je voudrais, ce sont des indications sur cette auberge. »
Isidore Beautrelet éclata de rire.
« L'auberge n'existe pas. C'est un truc pour dépister la justice. Un truc ingénieux, puisqu'il a réussi. »
Cependant, le docteur Delattre affirme...
« Et justement, c'est parce que le docteur Delattre affirme qu'il ne faut pas le croire. Comment ? Le docteur Delattre n'a voulu donner sur toute son aventure que les détails les plus vagues. Il n'a voulu rien dire qui pût compromettre la sûreté de son client. Et voilà tout à coup qu'il attire l'attention sur une auberge. Mais soyez certain que s'il a prononcé ce mot d'auberge, c'est qu'il lui fut imposé. Soyez certain... que toute l'histoire qui nous a servi lui fut dictée sous peine de représailles terribles. Le docteur a une femme et une fille, et il les aime trop pour désobéir à des gens dont il a éprouvé la formidable puissance. Et c'est pourquoi il a fourni à vos efforts la plus précise des indications.
Si précise qu'on ne peut trouver l'auberge.
Si précise que vous ne cessez pas de la chercher contre toute vraisemblance. Et que vos yeux se sont détournés du seul endroit où l'homme puisse être, de cet endroit mystérieux qu'il n'a pas quitté, qu'il n'a pas pu quitter depuis l'instant où, blessé par Mademoiselle de Saint-Véran, il est parvenu à s'y glisser, comme une bête dans sa tanière.
« Mais où, sacrebleu ?»«
Dans les ruines de la vieille abbaye. »«
Mais il n'y a plus de ruines, quelques pans de murs, quelques colonnes. »
C'est là qu'il s'est erré, monsieur le juge d'instruction. C'est là qu'il faut borner vos recherches. C'est là et pas ailleurs que vous trouverez Arsène Lupin.
Arsène Lupin ?
S'exclama monsieur Filleul en sautant sur ses jambes. Il y eut un silence un peu solennel, où se prolongèrent les syllabes du nom fameux. Arsène Lupin, le grand aventurier, le roi des cambrioleurs. Était-ce possible que ce fût lui l'adversaire vaincu, et cependant invisible, après lequel on s'acharnait en vain depuis plusieurs jours? Mais Arsène Lupin, pris au piège, arrêté, pour un juge d'instruction, c'était l'avancement immédiat, la fortune, la gloire.
Ganimard n'avait pas bronché.
Isidore lui dit « Vous êtes de mon avis, n'est-ce pas, monsieur l'inspecteur ?»«
Parbleu !»«
Vous non plus, n'est-ce pas? Vous n'avez jamais douté que ce fût lui l'organisateur de cette affaire ?»«
Pas une seconde. La signature y est. Un coup de Lupin, ça diffère d'un autre coup comme un visage d'un autre visage. Il n'y a qu'à ouvrir les yeux. »«
Vous croyez? Vous croyez ?»
répétait monsieur Filleul.
« Si je crois, tenez, rien que ce petit fait, sous quelles initiales ces gens-là correspondent-ils entre eux ?»« A-L-N, c'est-à-dire la première lettre du nom d'Arsène, la première et la dernière du nom de Lupin. »«
Ah !» fit Ganimard,
« rien ne vous échappe. Vous êtes un rude type, et le vieux Ganimard met bas les armes. »
Beautrelet rougit de plaisir et serra la main que lui tendait l'inspecteur. Les trois hommes s'étaient rapprochés du balcon, et leurs regards s'étendaient sur le champ des ruines. Monsieur Filleul murmura
« Alors il serait là. »«
Il est là !»
dit Beautrelet d'une voix sourde.
« Il est là depuis la minute même où il est tombé. Logiquement et pratiquement, il ne pouvait s'échapper sans être aperçu de Mademoiselle de Saint-Véran et des deux domestiques. »
« Quelle preuve en avez-vous ?»«
La preuve, ses complices nous l'ont donnée. Le matin même, l'un d'eux se déguisait en chauffeur. Vous conduisez ici. »«
Pour reprendre la casquette, pièce d'identité. »«
Soit, mais aussi, mais surtout, pour visiter les lieux, se rendre compte et voir par lui-même ce qu'était devenu le patron. »«
Et il s'est rendu compte ?»«
Je le suppose, puisqu'il connaissait la cachette, lui. » Et je suppose que l'état désespéré de son chef lui fut révélé, puisque, sous le coup de l'inquiétude, il a commis l'imprudence d'écrire ce mot de menace. Malheur à la jeune fille si elle a tué le patron.
Mais ses amis ont pu l'enlever par la suite.
Quand ? Vos hommes n'ont pas quitté les ruines. Et puis, où l'aurait-on transporté ? Tout au plus, à quelques centaines de mètres de distance. Car on ne fait pas voyager un moribond. Et alors, vous l'auriez trouvé? Non, vous dis-je, il est là. Jamais ses amis ne l'auraient arraché à la plus sûre des retraites. C'est là qu'ils ont amené le docteur, tandis que les gendarmes couraient au feu comme des enfants.
Mais comment vit-il? Pour vivre, il faut des aliments, de l'eau.
Je ne puis rien dire. Je ne sais rien. Mais il est là, je vous le jure. Il est là parce qu'il ne peut pas ne pas y être. J'en suis sûr, comme si je le voyais, comme si je le touchais. Il est là.
Le doigt tendu vers les ruines, il dessinait dans l'air un petit cercle qui diminuait peu à peu, jusqu'à n'être plus qu'un point. Et ce point, les deux compagnons le cherchaient éperdument, tous deux penchés sur l'espace, tous deux émus de la même foi que Beautrelet, et frissonnant de l'ardente conviction qu'il leur avait imposée.